pour l'instant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontières réelles entre le nord et le sud. Et donc, le fait qu'on doit faire des contrôles dans deux ports en Irlande du Nord pour certaines marchandises, pour eux, ça réactive vraiment la peur, si vous voulez, de la réunification. Depuis plus d'un an, il y a plein de sondages, tout le monde s'agite autour de la réunification, et tout ça, évidemment, crée d'énormes tensions.
Le chercheur Fabrice Mourlon, joint par Vincent Souriot. En France, leur activité s'est largement développée au cours des différents confinements. Les livreurs de plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, des centaines d'entre eux, en majorité originaires d'Afrique.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
De ma vie, Bernard Pivot. Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter une collection précieuse et immatérielle, celle des mots de notre vie. En effet, nous avons adopté certains de ceux qu'avait choisi Bernard Pivot dans son livre publié en 2010, Les mots de ma vie, chez Albin Michel. Selon l'éditorialiste du Figaro, c'est un dictionnaire gourmand et littéraire sur tous les termes qui ont accompagné son existence, d'un docte ad hoc à un charmant zut. Il est vrai que le choix des mots dessine le visage de leur auteur et un peu celui de leur lecteur. Mais radio oblige, c'est sous couvert de leur voix que Anne, Annie, Marie, Philippe vous proposent tour à tour ce petit abécédaire qui commence par la lettre A.
A comme âme. À notre mort, c'est l'accent circonflexe. Le chapeau de l'âme qui s'envole, aspiré par de puissants courants d'air métaphysiques. Après quelques jours, semaines ou mois, comme les météorologues, les théologiens ne sont pas d'accord sur le temps à long terme. Le chapeau parvient à un vestiaire immense, aux murs couverts d'innombrables porte-manteaux. Tout naturellement, il s'accroche à l'un d'eux. C'est là, dans les patères nostères, qu'il attend le jugement dernier. Comme amant. L'amant a malheureusement une maîtresse. Le mot amant serait, avec amour, le plus beau mot de la langue française s'il n'avait comme équivalent, complément, corollaire féminin ce vulgaire mot de maîtresse. Un amant est un homme qui aime une femme, qui en est aimé et qui a avec elle des relations sexuelles. Si cette femme est libre, on dira d'elle, de même si elle est mariée, qu'elle est sa maîtresse. Quelle que soit sa situation de famille, dès lors qu'une femme entretient des rapports intimes avec un homme qui n'est pas son mari, elle est désignée par la vox populi comme sa maîtresse. On emploie aussi avec gentillesse et hypocrisie les mots « ami », « petite amie », « copine » et surtout « compagne », terme devenu presque officiel parce qu'on sent bien que « maîtresse » a une connotation péjorative. Mais ces mots ne cachent pas le statut consacré par l'usage de maîtresse de l'homme aimé en cachette ou au grand jour. L'homme, lui, a le bon mot « amant ». Marié ou paxé, il devient l'amant. Célibataire, il est naturellement l'amant. L'affublé de synonymes banals comme compagnon, de plus en plus employé, ami, petit ami, copain, est une échappatoire. Rien ne peut égaler la beauté, l'énergie sentimentale, la virilité du mot amant. Pourtant, peu de femmes osent dire « Permettez-moi de vous présenter à mon amant ». Et peu d'hommes ont la sincérité crâne d'annoncer qu'ils sont l'amant de... Amant est un mot si éclatant, si fort, si charnel, si troublant, si audacieux, que les amants éprouvent eux-mêmes quelque embarras à le prononcer. Ils relèvent du domaine privé, surtout écrit « Mon bel amant, amant de ma vie, mon amant chéri, mon amour, mon amant de si longue mémoire. » Ou bien ils figurent dans les journaux à la rubrique des faits divers. Il est incontournable dans la littérature, biographie, roman, poésie. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines. La Fontaine, les deux pigeons. Valérie Larbeau a repris ses amants, heureux amants, pour en faire le titre d'un recueil de 3 nouvelles qui peignent l'amour sous un jour mélancolique, sans illusion. L'amant de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence et l'amant de Marguerite Duras raconte la découverte du plaisir sexuel par des femmes que la passion oblige à affronter les interdits sociaux et le scandale. Conclusion. Amant est un mot magnifique, mais dangereux. Moralement suspect à cause de sa charge spermatique, de sa finalité jouissive, des désordres familiaux et sociaux qu'il provoque. Il est logique qu'amant est un féminin, hélas. Amante est un mot qui n'est pas employé. On le rencontre sous la plume de Racine, de Proust, dans les mémoires du XVIIe et du XVIIIe siècle. En dépit de l'amante anglaise de Marguerite Duras, de Michel Houellebecq, qu'il utilise plusieurs fois dans son dernier roman, La carte et le territoire, amante n'a pas réussi à s'imposer dans le langage populaire, sauf chez les lesbiennes. On lui a préféré maîtresse, qui sent la férule et qui est dépourvue de grâce et d'amour, ou compagne, qui est banale, qui fait routarde. Amante n'est même pas utilisée pour désigner une femme tout simplement amoureuse. Pourquoi ce dédain, ce rejet d'un joli mot, qui a une évidente légitimité, même si l'amante en est civilement dépourvue? À propos, sur la différence entre mari et amant, Balzac, comme souvent, d'une phrase étalée au vrai. Il est plus facile d'être amant que mari, par la raison qu'il est plus difficile d'avoir de l'esprit tous les jours que de dire de jolies choses de temps en temps. Physiologie du mariage.
Comme ange. Refuser les mauvais anges, les traîtres, les déchus, les noirs, les maléfiques, les exterminateurs. Ne retenez que les bons anges, les purs, les gardiens, les protecteurs, les tutélaires, ceux dont la langue a fait nos amis, nos complices ou nos modèles. Vous êtes euphorique ? Soyez aux anges. Vous êtes d'un bon naturel ? Riez aux anges. Vous êtes dans l'admiration ? Vous êtes un ange de douceur, de beauté, de patience, de perfection, etc. Vous demandez un service ? Vous seriez un ange si vous vouliez bien. Vous êtes en paix, détendu, vous dormirez comme un ange. Vous aimez ? Mon ange, mon cher ange, mon petit ange, mon bel ange. Vous avez de la compassion ? Pauvre cher ange. Vous voulez l'embrasser ? Choisissez le dessus de sa lèvre supérieure, ce sillon que l'on appelle l'empreinte de l'ange. Pour un bébé, enveloppez-le d'un nid d'ange. Pour votre sapin de Noël, des cheveux d'ange. Vous dégustez un cognac ou un armagnac ? Pensez avec générosité à la part des anges, l'alcool qui s'est évaporé pendant le vieillissement. La mort, le sceau de l'ange. Comme apocope. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, beaucoup de Français emploient des apocopes à leur insu. Surtout les jeunes, qui n'en sont pas seulement de fréquents consommateurs, mais aussi des fabricants. Le prof, l'instit, le pédago, la récré, la compo, la rédac, la disserte, l'interro, les maths, la géo, les sciences nat, la trigo, la philo, le labo, la gym, l'athlé, la compète, la perf, l'ordi, le bac, les prépas, Sciences Po, Normal Sup, le petit-déj, le ciné, la télé. Autant de mots dont là où les dernières syllabes ont été supprimées, autant d'apocopes. Ces demi-mots ne signifient pas que l'on parle à demi-mots. Au contraire, ils dégagent souvent beaucoup plus d'énergie que les mots entiers. Bref, rapides, ils sont très familiers. Et même davantage, irrévérencieux, à tu et à toi, iconoclastes. Les apocopes rabaissent le caquet de substantifs bien installés à forte charge politique, philosophique ou sociale. Exemple, les cathos, les socialos, les écolos, les maos, les anars, les francs-macs, les aristos, les prolos, les bourges, les réacs, les homos, les intellos, les collabos, les stals, staliniens, les pros, les proprios, etc. Ces mini-mots en font un max. À condition qu'ils soient archi-connus, des noms et des titres se prêtent aussi à la découpe. Napo, Sarko, Sego, Jando, Rostro. Le O est un gros stimulateur d'apocope. L'UMA, l'IBE, le Nouvel Ops, le Figmag, Saint-Trope, les apocopes sont les championnes de la com et de la pub. Les puristes les condamnent. Ils ont tort, car elles apportent de la fantaisie dans nos conversations. De la provoque ? Non. Des raccourcis de connivence ou de bonne humeur, d'ironie ou d'intimité. Comme j'aimerais, oh oui, que florilège devienne un mot si populaire que son apocope Flori chasse le ridicule et si peu français best-of. Pas demain la veille non plus, que l'apocope devienne elle-même une apo. À propos, plus rare que l'apocope, l'aphérèse est son contraire. C'est la première syllabe du mot qui est coupée, ou les premières syllabes. Exemple, bus pour autobus, ricain pour américain.
Comme brouillard. Au même titre que Guignol, le jeu de boules, la soierie, les traboules et les sociétés secrètes, le brouillard fait partie de la mythologie lyonnaise. Mais, quoique le Rhône et la Saône traversent toujours la ville, il n'est plus aussi épais et fréquent qu'autrefois. En 1955, déjà, Jean Reversy, Le Passage, Place des Angoisses, se demandait où étaient les brumes d'antan. Elles avaient inspiré à Claude Lemarguet, Mirelingue, La Brumeuse, à Gabriel Chevalier, Brume Rive. Ce roman-ci commençait par une description de Lyon, une nuit de 1930, la ville étant recouverte d'une suffocante épaisseur de brouillard. Tout semblait se défaire dans une ouate impalpable, transperçante d'humidité, qui étouffait les sons et vous assassinait les bronches. J'avais 17 ans et j'étais amoureux d'une jeune fille de Villeurbanne à qui ses parents défendaient de m'en rencontrer. Je ne la visitais donc que de loin. Quand les horaires du lycée me le permettaient, je prenais le tram pour me poster dans sa rue et guetter le moment où elle sortirait de chez elle. Le plus souvent, elle restait dans l'ignorance de ma présence. Le danger d'être surpris et le plaisir de l'apercevoir me faisaient battre un peu plus fort le palpitant. Le brouillard me permettait d'audacieuses avancées, mais l'image qu'il me donnait à voir de ma bien-aimée était floutée. Un matin, le brouillard était semblable à celui que Gabriel Chevalier décrit. Le tramway avait roulé au pas, le conducteur actionnant en permanence son avertisseur. On n'y voyait que Quick. Je m'étais carrément posté sur le trottoir d'en face, à sa porte même, impossible au cas où son père l'aurait accompagné au lycée. Je ne doutais pas que mes yeux, stimulés, aiguisés par un sentiment très fort, bien au-dessus des conditions météorologiques, parviendraient à percer le mur de coton sale. Mais il était si dense qu'il ne laissait passer aucun bruit. Je n'entendis ni ne vis la porte s'ouvrir. Fantôme parmi les fantômes. Elle entra à mon insu dans le brouillard et s'y perdit. Ainsi sommes-nous souvent empêchés par les circonstances d'attacher à notre regard à ce que nous aimons. Des passants s'interposent, des voitures, un train, de la buée sur une fenêtre ou sur nos lunettes, un soleil aveuglant, de la brume, du brouillard. Le roman de Félicien Marceau, Les élans du cœur, se termine sur une inopportunité tout aussi naturelle et fâcheuse. Le cœur en écharpe, la jolie Denise reste enfermée dans sa chambre. Un garçon amoureux rôde à la lisière du petit bois, tous les jeudis, parfois le dimanche. On l'appelle Rimbaud. Il regarde la maison. Il scrute la fenêtre de la chambre. C'est le printemps. Chaque semaine, les herbes sont plus hautes, les arbres plus fleuris. Un jour, Rimbaud n'aperçoit plus rien. La maison et Denise ont disparu derrière le feuillage.
Comme Cédille. Ah, la Cédille ! Habile et malicieuse petite chose qui se glisse sous le C pour en faire un S. Exemple, soupçon, S-E-U-P-C-C-D-O-N, qui pourrait s'écrire soupçon, S-O-U-P-S-O-N, ou soupçon, C-C-D-O-U-P-S-O-N, ou plus rigolo, soupçon, C-C-D-O-U-P-C-C-D-O-N. Avec deux cédilles, soupçon paraîtrait plus suspicieux. De tous les signes d'écriture et de ponctuation, la cédille est le plus humble puisque le seul placé sous les mots, au-dessous de la ligne de flottaison de la phrase. La cédille ressemble à un 5, à un petit crochet, à un appendice, à une minuscule chauve-souris suspendue au mot la tête en bas. Voyez la cédille du hameçon, ne dirait-on pas un hameçon ? Voyez la cédille du poinçon, ne croirait-on pas une sorte de poinçon ? La cédille est la reine du transformisme. Non seulement elle change une lettre en une autre lettre, mais sa morphologie se prête aux interprétations que suggère le mot auquel elle est liée. Ainsi, La supériorité de notre garçon sur ses camarades étrangers, le boy, le ragazzo, le muchacho, le hungue, etc., tient à ce qu'il a un sexe et qu'il le montre. Met-il un caleçon ? Il continue d'afficher sa virilité. Pas grave de ne pas avoir de tire-bouchon pour ouvrir une bouteille, à condition que ce soit du Jurançon ou du Saint-Pourçain. Il est fourni avec le vin. Dommage que les chansons n'aient pas eu cette commodité. Comme il est regrettable que jadis la moisson n'ait pas proposé une serpette aux pauvres paysans. La cédille a été inventée et employée pour des raisons pratiques, pour qu'on ne confonde pas, par exemple, le mâcon avec le maçon. Mais elle ne s'est pas résignée à cette fonction utilitaire. Comme ces garçons et filles de piste qui accèdent un jour au centre du cirque pour y faire à leur tour un numéro. La cédille est devenue une magicienne. À propos, comment les frères Renaud et Gauthier Capuçon ne seraient-ils pas devenus de grands musiciens avec une clé de fa attachée à leur nom ? C'est comme chocolat. Le chocolat est-il une drogue ? Assurément. Beaucoup d'impénitents croqueurs sont soumis au chocolat comme de fiéfés renifleurs à la cocaïne. À cette différence près que les fèves de cacao sont libres de commerce et qu'on en tire en poudre, solide ou liquide, une gourmandise autorisée par la République et par la faculté. Qui est en manque de chocolat n'ouvre pas délicatement une tablette. Il la saisit avec fébrilité. Il passe un doigt sous le rabat de l'enveloppe, il l'arrache, il déchire le papier d'argent, il met à nu la tablette, désormais prisonnière de ses mains, de ses yeux, bientôt soumise à sa concupiscence. Avec le ballotin, il n'a pas plus d'égard. Trop long de défaire le nœud. S'il a des ciseaux, il coupe. Ou bien, il tire sur le ruban jusqu'à ce qu'il cède. Ou, s'il n'est pas trop serré, il le fait glisser le long de l'emballage, dont il ouvre ensuite prestement les rabats. Il extirpe le papier fantaisie du dessus et, scrutant les différents chocolats qui s'offrent à lui, il saisit déjà le premier de ce qui sera une longue montée au paradis des Aztèques. Le foie, bien sûr. Ah, le foie. Comment se présente le foie d'un fou de chocolat ? L'image est brouillée. Rouge sombre, couleur lit de vin, cacao. De quoi se faire de la bile ? Frédéric Dard se flattait d'avoir réalisé l'union sacrée de son foie et du chocolat. Il avait réussi à l'éduquer, et même à le dresser, car le foie est, bien avant le cheval, la plus belle conquête de l'homme. Préface au livre de Martine Joly, « Le chocolat, une passion dévorante ». Le foie dompté reste les reins. Inapprivoisables, même pas influençables les reins, deux têtes de nœuds. Ils fabriquent des cailloux. Et quand les cailloux veulent se tailler un chemin dans nos bas-fonds, ouille. Lors de ma seconde crise de colique néphrétique, le chirurgien me demanda d'observer la petite chose dure qu'il avait extraite de ma tuyauterie intime et qui tenait entre le pouce et l'index. On distingue de très bien, me dit-il, les strates chocolatières. De haut en bas, la maison du chocolat, Barnachon, Valrhona, Côte d'Or, Lindt. Mais certaines marques m'échappent sûrement. Je n'ai pas votre compétence. » Au journaliste qui lui demandait avec des airs de limier du fisc pourquoi il vivait en Suisse, Frédéric Dard répondait « Parce que j'aime le chocolat. » C'était plus le chocolat au lait que le noir qui, du temps où les frontières n'étaient pas des conventions, méritait le détour par Genève. Vladimir Nabokov. Il est impossible de retrouver le goût du chocolat au lait suisse de 1910. Cela n'existe plus. Apostrophe, 30 mai 1975. Je crois que nous avons tous dégusté un jour un chocolat, craquant sous la dent ou fondant sous la langue, qui nous a laissé un souvenir si exquis que tout au long de notre vie, nous dévorons des montagnes de chocolat pour retrouver ce que nous savons bien à tout jamais perdu. Car ce n'est pas ce chocolat qui n'existe plus, mais nous, tels que nous étions quand nous l'avons tant aimé. À propos, être chocolat, être grugé, à tout le moins frustré.
ne pas avoir obtenu ce qu'on espérait, s'être fait avoir. Il y avait jadis au cirque de Paris deux clowns qui s'appelaient Foutite et Chocolat. Celui-ci n'était pas la dupe de celui-là. À la fin de chaque scène, Foutite se moquait de son compère en lançant « Il est Chocolat !» lequel, faussement consterné, s'exclamait « Je suis Chocolat !» Le succès du numéro assura la prospérité de l'expression « être chocolat ».
Comme chat. Avec l'âge, il était devenu sourd. Mais son regard était resté celui d'un chat que les gourmandises de la table et de l'esprit n'avaient ni blasé ni usé. Peut-être pouvait-on juste observer dans ses grands yeux en amande une légère tendance du vert à foncer, comme si le temps, au lieu de délaver l'iris, avait fortifié ce qu'on pourrait appeler les teintes de la contemplation. Il lisait, et ce fut une chance qu'il pût lire jusqu'au bout. Mort à 23 ans et demi, comme beaucoup d'archivistes, de bibliothécaires, de chartistes et de moines érudits que Dieu très longtemps oublie, cachés qu'ils sont entre des montagnes de papier, il devait probablement son grand âge à son intimité avec les livres. Froid, raidi, ses yeux restés ouverts semblaient continuer de scruter des images ou des mots. Avait-il déjà ailleurs repris ses lectures ? Était-il passé presque à son insu d'un logis bibliothèque à un autre ? S'étonnait-il de ne pas m'y trouver ? Les chats ne s'étonnent de rien, pas même de lire. Tourner la page, il savait. Arrivé sans pédigré, sans papier, sans diplôme, mais avec la recommandation d'une secrétaire avisée, il se fixa chez nous, l'année même où je débutais à la télévision. Mes angoisses, il s'en fichait. Encore tout petit, quoique joueur, il était d'un naturel rêveur, souvent réservé. Il avait compris qu'il n'aurait dans cette maison qu'un rival, le livre, et qu'il était de son intérêt surtout pas de se mesurer à sa multitude, à sa disponibilité et à ses mystères, mais de s'en faire un obligé par la lecture. Il devint donc aussi sérieux qu'un autodidacte. Trop sérieux même, bien plus que moi. J'avais beau lui expliquer que dans la vie il n'y a pas que la littérature, il était réfléchi et grave comme un ouvrage des presses universitaires de France. Par notre appétit pour les poissons et pour les viandes, nous nous ressemblions, mais je ne pouvais pas le suivre dans ces longues séances de déconstruction romanesque ou de ressassement ontologique. Quand il réfléchissait, il avait horreur d'être dérangé. Une photo le montre, couché dans un fauteuil du salon et entouré d'Yves Montand, de François Perrier et de Michel Piccoli, auxquels il avait refusé de céder la place. La célébrité ne l'impressionnait pas, alors que mes amis étaient épatés par sa souveraine et popote manière d'exercer son bon droit. Quand une équipe de télévision ou des photographes apparaissait dans le couloir d'entrée, il fuyait au fond de l'appartement où, caché, il attendait le départ de ses importuns. S'il avait été journaliste à la télévision, il eût été heureux d'être dans un placard avec un bon bouquin. Je crois qu'il m'aimait parce que je lisais. Il y avait alors entre nous une connivence devant laquelle cédait son mauvais caractère, à tout le moins sa circonspection. Il s'installait à mes pieds ou sur ma table et ronronnait d'une affectueuse complicité littéraire. Moi, j'étais aux anges. Je fondais. Et il est de fait que les livres que j'avais alors sous les yeux bénéficiaient d'un attrait, d'un charme, d'une plus-value dont étaient privés les ouvrages que j'avais entre les mains quand ils ne m'assistaient pas ou de trop loin dans mes lectures. De cette manière, mon chat aura beaucoup influé sur mes jugements. Et même sur mes choix. venait-il à se coucher sur le volume ouvert qu'il était manifeste qu'il me déconseillait d'en poursuivre la lecture ? Avait-il remarqué que je bâillais ? L'avait-il feuilleté la nuit précédente quand je dormais ? En 23 années et demie de vie commune et de commerce partagé avec les livres, jamais il ne commit un impair, à savoir m'interrompre dans la lecture d'un ouvrage où je prenais du plaisir. Discernement et délicatesse. Il savait lire dans le regard d'un lecteur. Comme tous les chats, curieux des paquets qui entraient dans la maison, il flairait les livres apportés par le facteur et les coursiers. Ayant remarqué qu'il négligeait certains pour se complaire avec d'autres, j'ai cru qu'il me donnait là un premier avis. Mais j'avais tort. Peut-être voulait-il voir jusqu'à quelles extrémités ma confiance en lui pouvait me conduire. Si j'avais entériné ses choix à travers le papier d'emballage, je l'aurais certainement déçu. J'ai dit que c'était un chat très sérieux et beau. Quoique né d'occurrence et de gouttière, il avait la classe d'une édition originale sur grand papier. Le poil blanc et gris sombre, il était haut sur pattes, costaud, et il se faufilait avec élégance entre les piles de livres. Il ne s'appelait pas Proust ou Montaigne, mais tout simplement Rominet. Quand, à haute voix, je lisais une page qui m'enchantait, il ouvrait ses oreilles et ses pattes frémissaient. À propos, Yves Robert, dans Un homme de joie, raconte que Marcel Aimé avait un chat qu'il adorait, qui venait sur son bureau réclamer des caresses pendant qu'il écrivait. Un jour qu'il avait un texte à finir, il a repoussé le chat. La bête est allée à la fenêtre, s'est jetée dans le vide et s'est tuée. Marcel me disait doucement « Mon chat s'est suicidé. » Sans doute que le chat a simplement glissé, mais c'est tellement plus beau comme ça.
Comme égo. Égo, nom masculin, invariable forcément. Un égo ne varie pas, ne transige pas, ne s'abaisse pas, reste toujours au sommet de sa considération. L'égo ne peut pas prendre la marque du pluriel. Un authentique et puissant égo refuse d'être mêlé à des moi, subalternes ou d'imposteurs. Un égo n'a pas d'accent sur le « e ». Ce serait un pléonasme. Car il est dans la nature même de l'ego de mettre constamment l'accent sur lui. M comme marron. Marron. Secret bien gardé, je porte tous les jours depuis 50 ans, dans la poche droite de mon pantalon, un marron. Un bon gros marron bien joufflu que je ramasse en septembre avec 3 ou 4 autres sous un marronnier qui me paraît sympathique dans un parc de Paris, à Quincier ou au cours d'une promenade impromptue, ici ou ailleurs. Il n'y a pas de jour que je ne le caresse, ne le triture, ne le fasse rouler entre mes doigts. Il en est vernissé, brillant. Il est très rare que je le perde. Il me fait toute l'année. Ayant eu dans ma jeunesse des crises de rhumatisme infectieux, je reçus d'une tante experte en pharmacopée champêtre le conseil de porter toujours sur moi un marron. Il avait le pouvoir, disait-elle, de s'opposer avec douceur aux poussées inflammatoires des articulations et des muscles. Il eut la modestie de ne jamais m'avertir de ses interventions. Je m'habituais peu à peu à son existence au fond de ma poche, puis me félicitais de sa présence ronde, un peu bosselée. Il devint même une sorte de talisman, de gris-gris intime. Et mieux, quand, pour quelque motif que ce soit, je sens monter en moi une nervosité à laquelle je m'efforce de ne pas céder, je serre fort mon marron, je le palpe, le caresse, le triture, obtenant du contact sensuel de son écorce une paix salvatrice. Un calme qui, souvent, en étonne plus d'un. Si mes colères furent rarissimes, je le dois beaucoup à ce marron, dont ma tante ignorait qu'il étendait au nerf son action bienfaisante. Souvent, avant une émission délicate, je le tirais de ma poche et, afin de me détendre, de gagner en sérénité, je jouais avec. Je le lançais en l'air et le rattrapais. Plusieurs fois de suite. Il ne tombait jamais. Des témoins s'étonnèrent de mon manège. Un marron. Oui, un marron. Oh, comme c'est drôle. Je teste mes réflexes. Je me prépare au ping-pong verbal. N'avez-vous pas vu le célèbre film noir de Howard Hawks, Scarface ? Ah, oui, le tueur avec sa pièce de monnaie qu'il lance en l'air et rattrape immanquablement. C'était George Raft qui jouait le rôle. Inoubliable. Son sourire cynique. Sa désinvolture criminelle. Mon film s'appelle Apostrophe ou Bouillon de culture. Ce n'est pas un film noir. C'est une émission littéraire qui revient chaque semaine, le vendredi soir. Dans l'argot de la presse, on désigne cette répétition des événements, à la même date ou le même jour, sous le nom de marronnier. N'est-il pas logique que je porte sur moi un marron de mon marronnier ?
Comme mélancolie. Le mot est si beau qu'on voudrait souffrir de mélancolie rien que pour pouvoir la nommer. Combien de fois, chagrin, pessimiste, dans l'état d'abattement que procure une épreuve ou une contrariété, j'ai prononcé le mot de mélancolie, ressentant aussitôt un mieux-être dû à sa musicalité, à son élégance, à sa douce ondulation. Les romantiques avaient bien compris qu'elle leur laissait assez de gouverne sur eux-mêmes pour en tirer des larmes de plaisir et des poèmes d'anthologie. Car la mélancolie est à la fois le nom d'une dépression et le nom de son antidépresseur. Le jazz est la musique de la mélancolie. Le flamenco est trop sonore. Le fado trop sombre. Le tango trop agité. De la musique nègre monte une douleur sereine, une plainte allègre. Dans Magie Noire, Paul Morand évoquait cette impérieuse mélancolie qui sort des saxophones. Des trompettes aussi, des clarinettes et même des banjos. Le blues est si magnétique qu'à la longue il nous arrache au blues, comme les chœurs des Negro Spirituals nous arrachent aux souffrances de la terre. Il est probable que la mélancolie a été inventée par Dieu longtemps après la création, quand il prit conscience de ses erreurs. Ainsi, la satisfaction des artistes se transforme-t-elle en mélancolie ? Celle-ci devient alors un stimulant pour créer de nouveau. À propos, on ne peut pas mieux dire que le soleil noir de la mélancolie, double oxymore. Gérard de Nerval est pourtant resté inconsolé.
Comme vivre, verbe irrégulier, très irrégulier. La santé, l'intelligence et la fortune sont fort inégalement réparties. Vivre est un verbe tellement désordonné, irrationnel, que certains êtres vivants, cellules, virus, moustiques, loups, hommes, deviennent des déviants, des insoumis, des francs-tireurs, des irréguliers. Verbe du troisième groupe, comme mourir. C'est dans ce groupe que la conjugaison est la plus difficile, mais aussi la plus surprenante, la plus passionnante. Heureux celui dont la vie a été assez riche pour conjuguer vivre à tous les modes,